poussée et confirmée des réformateurs et des modérés en Iran, il remporte le second tour des élections législatives. La bataille pour prendre la présidence du Parlement s'annonce donc très serrée avec les conservateurs, nous dira Siavosh Ghazi à Téhéran. En Syrie, après les bombardements intenses du régime cette semaine, une nouvelle trêve est en vigueur depuis ce matin sous l'égide des Russes et des Américains dans les régions de Damas et de Latakia, mais pas à Alep. Nous serons en direct dans un instant avec Thomas Piret, universitaire spécialiste de la Syrie. Il s'interroge sur le rôle des États-Unis dans ce dossier. En France, les instits bientôt mieux rémunérés dans le JDD aujourd'hui. Najat Vallaud-Belkacem annonce une revalorisation de leur prime annuelle, mais la rémunération des enseignants français reste bien inférieure à celle des autres pays européens. Enfin, après le maintien de la rémunération de Carlos Ghosn, malgré l'avis négatif des actionnaires de Renault, nous demanderons à un économiste spécialiste de l'industrie automobile ce que cette affaire signifie et ses conséquences à l'intérieur de Renault. C'est probablement une étape de plus dans le processus d'ouverture politique de l'Iran et dans sa normalisation. Les résultats du second tour des législatives ce midi confirment une poussée des candidats modérés et réformateurs, Siavosh Ghazi.
Selon les résultats officiels, la coalition des partis réformateurs et modérés, partisans du président Rouhani, a largement remporté ce second tour en obtenant 35 sièges contre moins d'une vingtaine pour les conservateurs. Déjà au premier tour, les réformateurs avaient obtenu 95 sièges. Ils pourront former un bloc puissant dans le prochain Parlement qui se réunira fin mai, ce qui pourra faciliter considérablement la tâche du président Hassan Rouhani pour mener à bien sa politique d'ouverture et de réforme, et ce d'autant plus que la quasi-totalité des candidats ultra-conservateurs ont été éliminés. Toutefois, il semble qu'aucun des deux camps n'a obtenu la majorité absolue qui est de 144 sièges. La position d'une trentaine de députés indépendants sera déterminante pour l'élection du président du Parlement qui interviendra fin mai. L'actuel président conservateur du Parlement sortant, Ali Larijani, et le chef de file des réformateurs, Mohammad Reza Aref, sont tous les deux candidats pour la présidence du Parlement. Le futur Parlement comptera également 17 femmes, dont 14 réformatrices, 2 conservatrices et une indépendante, contre 9 dans l'actuel Parlement. C'est le chiffre le plus important depuis la révolution islamique de 1979.
Merci Siavosh Ghazi pour ces explications depuis Téhéran. C'est à n'y plus rien comprendre. Alors qu'en vertu d'un accord russo-américain signé le 27 février, une trêve en Syrie entre le régime et les forces rebelles est officiellement en vigueur, toujours, mais bafouée évidemment, on le sait, par des bombardements syriens intenses depuis quelques jours. Voilà qu'un nouvel accord dit de détente est entré en vigueur depuis ce matin dans la région de Damas, dans la région de Latakia, mais pas à Alep, la grande ville du nord de la Syrie, où d'ailleurs ce matin, une vingtaine de bombardements ont encore eu lieu. Bonjour Thomas Piret.
Bonjour.
Vous êtes en direct, vous êtes maître de conférence à l'Université d'Édimbourg, spécialiste de la Syrie. C'est quoi cette trêve dans la trêve? Ça veut dire que, en fait, les quelques timides progrès des derniers mois sont anéantis aujourd'hui?
Je pense qu'on peut le dire, oui. C'est une trêve on peut dire qu'elle n'a à peu près aucune valeur humanitaire. Elle concerne deux fronts relativement secondaires. Et je pense que c'est une trêve qui s'inscrit tout à fait dans la stratégie militaire du régime syrien et de ses alliés russes et iraniens. Il s'agit d'épargner les forces sur des fronts secondaires pour pouvoir les concentrer sur la campagne d'Alep. Et donc je pense que les Américains ont tout simplement souscrit à cette stratégie.
Donc si on vous écoute bien, on comprend évidemment pourquoi et les Russes et leur allié Bachar el-Assad sont favorables à cet accord, mais pourquoi les Américains se sont embragués là-dedans?
Je pense que les Américains sont dans une stratégie dont évidemment ils ne se vantent pas, mais qui consiste à utiliser indirectement la pression militaire du régime syrien et de la Russie pour faire pression sur l'opposition syrienne et la contraindre à un compromis très significatif. On a bien vu que les négociations de Genève étaient complètement bloquées parce que le régime et ses alliés étaient tout à fait inflexibles sur la question du maintien au pouvoir de Bachar el-Assad. Les Américains officiellement n'y sont pas favorables et continuent de demander une transition politique comme le fait l'opposition, mais on sent bien qu'ils ne croient plus très sincèrement à cette approche et se rendent compte qu'il n'y a qu'une seule variable d'ajustement, c'est l'opposition. Et donc il s'agit de faire pression sur l'opposition pour qu'elle accepte un maintien d'Assad au pouvoir. Les Américains ne peuvent pas le faire très directement et très officiellement sous peine de se brouiller avec leurs alliés du Golfe et en Turquie. Et donc ici on utilise la Russie et le régime comme moyen de pression pression sur l'opposition.
Dans ce que vous êtes en train de nous décrire, Thomas Pierret, je rappelle que vous êtes universitaire spécialiste de la Syrie, c'est un cynisme assez incroyable de l'administration de Barack Obama.
Effectivement, mais je veux dire, on attend désespérément depuis des semaines le signal de quelque chose qui irait en sens contraire, on ne le voit pas. On voit l'administration américaine qui reprend des prétextes russes sur la présence du front Nusra à Alep, alors qu'elle n'avait aucune obligation de s'engager dans ce genre de gymnastique rhétorique. Et puis voilà, l'assentiment de l'administration américaine à cette trêve partielle est tout à fait surprenant, sachant que l'urgence humanitaire est à Alep, et or, voilà, les Américains se sont... Voilà, on donnait le ressentiment à cette trêve partielle qui, je le répète, ne sert que les intérêts militaires du régime.
Oui, vous parlez d'Al-Nosra. En fait, la présence du front Al-Nosra à Alep justifie le fait que le couvre-feu concerne toutes les régions sauf Alep, hein, c'est ça?
Mais non, Al-Nusra a une présence dans toutes les régions du pays, pas seulement à Alep. Donc l'idée qu'une région serait exclue de la trêve parce qu'Al-Nusra y est présente est ridicule. Il n'y a aucune région qui est contrôlée exclusivement par Al-Nusra. Même le bastion, l'endroit où Al-Nusra est le plus puissant dans toute la Syrie, qui est la région de Ma'arat al-Noman près d'Idlib, même là, Al-Nusra est dans une cohabitation extrêmement difficile avec des groupes rebelles comme qui soutenus par les États-Unis. Donc non, il n'y a aucune raison d'admettre qu'Alep puisse être exclu de la trêve parce qu'Al-Nusra y serait présente.
Merci beaucoup Thomas Pierret. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université d'Édimbourg, spécialiste de la Syrie. Vous étiez en direct dans le journal de 12h30 de France Culture. Bonne journée à vous. J'ajoute que hier soir, 81 ONG ont lancé officiellement un appel à Barack Obama et Vladimir Poutine pour sauver la trêve en Syrie et ne pas laisser mourir l'espoir, rappelant que la Syrie est au bord de la catastrophe humanitaire. En Allemagne maintenant, un congrès sous très haute tension. L'AfD, le parti populiste qui monte sur fond de crise migratoire et qui a fait une entrée fracassante dans trois Länder le mois dernier lors des élections régionales. L'AfD donc se réunit en congrès tout ce week-end à Stuttgart. Déjà ce midi, la police indique avoir interpellé 400 manifestants de gauche qui tentaient de bloquer l'accès au congrès. Des échauffourées entre militants des deux camps d'ailleurs ont eu lieu également. L'AfD en effet fait peur, crédité de 10 à 15% des voix dans les sondages. Le parti populiste désormais vise clairement les élections fédérales dans un an et demi avec une nouvelle cible, l'islam, Cyril Sauvageau.
Interdire les minarets et le port du voile, ce sont quelques-unes des propositions que l'AfD va soumettre ce week-end au vote de ses militants. Le parti d'extrême droite, qui prospère depuis l'an passé sur la crise migratoire, ne compte pas s'arrêter en chemin après sa percée en mars au régional. La rhétorique anti-islam pourrait donc s'imposer comme un nouveau thème de prédilection. Le terreau est fertile, avec l'arrivée d'un million de réfugiés et après le trouble provoqué par les agressions de Cologne la nuit du Nouvel An. L'islam est-il pour autant une menace pour la société allemande, comme le proclament les ténors de l'AfD? Le représentant des musulmans d'Allemagne, Ayman Maziek, se dit scandalisé. Cette instrumentalisation est très dangereuse. Elle montre bien que l'AfD a des valeurs contraires à notre constitution. Son programme ne vise qu'à une chose, discréditer toute une communauté et restreindre sa liberté de culte. Une liberté fondamentale en Allemagne, pays où la laïcité n'existe pas. Dans la classe politique, les coups de gueule de l'AfD suscitent une réprobation quasi unanime. Mais la place de l'islam est en train de devenir un sujet de débat. Les conservateurs bavarois de la CSU réclament désormais une loi sur l'islam. Ils proposent notamment d'interdire, comme en France, le voile intégral.
En France, Bernard Cazeneuve exprime sa solidarité avec les musulmans de Corse. Il redit aujourd'hui sa détermination à protéger tous les lieux de culte. Une salle de prière musulmane, en effet, a été détruite par un incendie tôt ce matin à Ajaccio et le parquet privilégie clairement la piste criminelle. Les professeurs des écoles seront donc augmentés. Cette revalorisation est confirmée aujourd'hui par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, dans le JDD. Le montant de la prime n'est pas encore connu. Il sera précisé mardi par Manuel Valls, mais il devrait permettre de combler l'écart entre les profs du primaire et ceux du secondaire. Aujourd'hui, les premiers touchent en moyenne 400 euros de prime annuelle contre 1200 euros pour leurs collègues en collège et lycée. Bonjour Mathieu Péris.
Bonjour Antoine.
À un an de la présidentielle, cette annonce évidemment sonne comme un appel du pied du gouvernement envers une partie de son électorat, mais il faut quand même rappeler que les salaires des 875 000 enseignants en France sont bas si on les compare à ceux de nos voisins.
Et oui Antoine, si on regarde les classements publiés par l'OCDE, nos enseignants enseignants sont plutôt mal lotis. 18e sur 24 pays européens, c'est simple. En moyenne, ils gagnent presque deux fois moins que leurs collègues luxembourgeois et allemands, par exemple, en tête du classement. Mais tout de même, quasiment deux fois plus qu'en Pologne ou en Grèce. Des salaires assez bas, donc, et qui progressent en plus assez lentement. Il faut attendre 30 ans pour trouver des niveaux équivalents à ceux de nos voisins en toute fin de carrière. Alors, c'est surtout en primaire que ce retard français se fait sentir. Les instituteurs touchent 4000 euros de moins par an que la moyenne de leurs confrères de l'OCDE. Et la revalorisation dont vous parliez, Antoine, ne devrait être que de 800 euros maximum. Vous le voyez, l'écart restera donc important. En fait, en France, les salaires varient beaucoup d'un enseignant à l'autre, autour de 2000 euros par mois pour un instituteur débutant, 2500 euros pour un professeur en collège et lycée et jusqu'à 3500 euros pour un agrégé. Chez nos voisins, les différences de traitement sont bien moins importantes. Résultat, la classe politique s'accorde pour réclamer une hausse de salaire, de Bruno Le Maire à Jean-Luc Mélenchon en passant par Alain Juppé. Tous dénoncent ces profs sous-payés, avec bien sûr en toile de fond la question de l'attractivité. Certains concours manquent de candidats. En 2015, près de 5000 postes n'ont pas été pourvus.
Merci beaucoup Mathieu Péris. Voilà un événement rarissime dans le monde feutré des assemblées générales d'actionnaires et des conseils d'administration des grandes entreprises. Le groupe Renault maintient la rémunération de son PDG contre l'avis des actionnaires qui, hier, avaient majoritairement voté contre à 54%. Sauf que ce vote, en fait, n'était que consultatif. Et donc, malgré l'opposition de l'État actionnaire de Renault, eh bien, la rémunération de Carlos Ghosn s'élèvera bien à quelque 7 200 000 euros pour l'année 2015. Cela aura quand même des conséquences au sein du groupe, nous explique l'économiste Bernard Julien, spécialiste de l'industrie automobile.
Ça signifie que la politique de rémunération ne va pas bouger, bien que il y ait une certaine défiance qui se soit exprimée de la part du conseil d'administration, hein, c'est-à-dire de l'État qui a l'habitude de voter contre, et aussi d'un certain nombre de petits porteurs, très souvent des Renault d'ailleurs, qui ont indiqué que ce qui se tramait dans le cœur de l'entreprise n'avait pas leur aval. Mais ça ne change rien quant au fond, hein, puisque malgré cette défiance-là, la rémunération telle qu'elle avait été définie va finalement être acceptée. Renault, comme PSA d'ailleurs, s'apprête à renégocier leurs accords de compétitivité. Ça signifie que des efforts vont encore être demandés aux salariés à qui on demande cela depuis pas mal d'années désormais. Évidemment, si du côté de la direction un effort avait été fait, la négociation eût été plus facile. C'est ce que l'État a voulu signifier, ce que les syndicats avaient exprimé et ce qu'un certain nombre d'actionnaires ont également indiqué. Ça veut dire qu'il va falloir à Carlos Ghosn réfléchir à la manière dont il entend se positionner, s'il entend rester à la tête de l'entreprise.
L'économiste Bernard Julien, interrogé par Hélène Masquelier. Patrick Jeantet devrait devenir le prochain patron de SNCF Réseau. François Hollande, en tout cas, propose le nom de l'actuel PDG des aéroports de Paris pour diriger l'ex-RFF Réseau Ferré de France. La décision officiellement sera prise lundi. Et puis chez Air France KLM, le conseil d'administration de la compagnie aérienne devrait désigner mardi Jean-Marc Janaillac, l'actuel patron de Transdev, pour succéder à Alexandre de Juniac. Si vous vous rendez prochainement dans un pays de l'Union européenne, voici une bonne nouvelle pour vous, propriétaire d'un téléphone portable. Depuis ce matin, en effet, appeler ou envoyer des SMS depuis l'Europe vous coûte moins cher, puisque les frais de communication à l'étranger sont divisés par 4. Quels que soient les opérateurs, les prix seront par exemple de 5 centimes la minute quand vous appelez, 5 centimes par mégabit quand vous êtes sur Internet, ou 2 centimes le SMS. Tout ça, ce sont des prix hors taxes. Pour Guillermo Beltra, du Bureau européen des unions de consommateurs, cette baisse s'explique évidemment par des motifs économiques, mais elle a aussi, écoutez-la, une dimension politique.
L'Union européenne, l'une de ses plus grandes raisons d'être, c'est pour construire un marché intérieur. Et en 2016, un marché intérieur n'a aucun sens sans un marché intérieur numérique aussi. Un marché intérieur au sein de l'Union européenne n'est pas complet tant qu'on ne puisse pas traverser des frontières aussi avec nos tablettes et nos téléphones et nos ordinateurs portables, et qu'on puisse utiliser les services quand on est en Allemagne comme si on était en France, ou quand on est en Italie comme si on était chez nous à la maison en Espagne. Le fait que le frais d'itinérance vont être pas du tout chers, ça voudra dire aussi beaucoup de nouvelles demandes. Beaucoup de gens vont vous dire qu'ils ne l'utilisaient pas parce qu'ils avaient peur de dépenser trop d'argent. Alors, ce qui veut dire, c'est que maintenant, ils vont l'utiliser, ce qui, pour les opérateurs mobiles, représente une nouvelle demande. Ce sont des opportunités de business, parce qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent avec ça aussi.
Des propos recueillis par David Ravier. La météo, à partir de la mi-journée, les pluies seront plus marquées sur la moitié nord du pays et deviennent même localement orageuses de la région centre aux régions de l'Est. Il neige en montagne. En fin de journée, la perturbation ne concernera plus, en revanche, que les régions de l'Est des Ardennes aux Alpes. Température toujours fraîche cet après-midi, 12 à 14 degrés des Pays de la Loire à l'Aquitaine et au Midi-Pyrénées, 15 à 20 degrés en région sud-est et en Corse, mais de 7 à 11 degrés un peu partout ailleurs. Merci à Emmanuel Faucillon pour son aide et Jacques Hubert à la prise de son.